Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à midi et demi maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 106.6, mais aussi par internet, en direct via le site de Radio Campus Lille et en podcast sur le site de Kikinkou, kinc.free.fr. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, c'est le deuxième dimanche du mois, et nous accueillons notre spécialiste tout-terrain, Guy Pilarczyk.
Bonjour Luc, bonjour tout le monde, bonjour aux techniciens, et aujourd'hui, on va parler du tout-terrain.
Hein. Et forcément, c'est l'émission tout-terrain. Donc pour parler du tout-terrain, t'es pas venu seul, hein, dans ta sacoche de moto, tu as ramené notre ami Patrick Pantini. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Qui lui-même n'est pas venu seul, puisqu'il a pris son garde du corps, Joe.
Ouais.
Salut Joe. Donc Patrick, il est là notamment, on le connaît bien, nos auditeurs le connaissent bien, parce qu'il vient chaque année nous parler du salon de la moto de Pécancourt, mais c'est pas pour ça qu'il est là aujourd'hui, parce qu'il est aussi membre de la Ligue des Flandres, directeur de course,
directeur de course, en effet.
Attention, ça rigole plus. Et il va nous parler du championnat de motocross des Flandres de 2014, c'est ça? Ainsi que le championnat des courses sur sable.
En effet, parce qu'il est aussi directeur des courses sur sable, ou à l'arrivée.
Ici, il y a eu la première épreuve à Berck. J'étais à l'arrivée. Hein, voilà, on se partage la tâche, dans la mesure où Berck, c'est une formule sans cross. Gros départ et à l'arrivée. Donc un directeur seul n'est pas suffisant. Donc j'ai officié là-bas, pour la première fois. Mais c'est fort intéressant, j'en dirai deux mots tout à l'heure.
Ok. Un homme multicasquette. Donc on parlera aussi des nouvelles normes de sécurité, des circuits de motocross, un coup dur après déjà les problèmes d'assurance des années d'année dernière.
Oui, suite à quelques accidents assez importants, mortels même.
Donc c'est grave ça. Ouais. On parlera également du premier enduro vintage pour fêter les 40 ans de l'Enduropal.
En effet, 40 ans déjà, oui.
Donc ça sera réservé aux motos d'avant 90, je crois.
C'est ça, et puis ça se déroulera le vendredi.
Voilà, en deux manches, le vendredi après-midi en deux manches.
Voilà.
On aura peut-être d'ailleurs un scoop on dira tout à l'heure. Hein, on aura peut-être un scoop à ce sujet-là. Ensuite, on a aussi besoin d'aventures, nous, à Kikinkou. Hein. Déjà, depuis le début de cette rentrée radiophonique, on a eu quelques aventuriers.
Et on a eu l'Afrique, l'Amérique, la Russie,
et maintenant, allons dans les pays du Nord, en Islande, avec Stéphane et Valérie. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez donc fait un petit périple, je crois qu'il y a 1200 km pour y aller à peu près,
c'est ça, sur un mois, on a fait 6500 km à peu près.
Ça va, c'est sympa. Hein, en couple, sur la moto, un
toujours,
650
ouais.
Transalp.
Ouais.
Mais vous n'étiez pas à votre coup d'essai, puisque vous avez déjà fait les USA, la Norvège, je crois.
Oui, la Norvège, Suède. Et cette année, on s'est attaqué à l'Islande. Et premier entraînement avec le froid, avec la Norvège, et là l'Islande, ça s'est très bien passé.
Donc vous me parlez de ça, ce pays magnifique, au décor splendide. D'ailleurs, vous avez un blog très bien fait, c'est Tout dit en vadrouille. Je vous invite à y aller, il y a des très très belles photos, et peut-être des vidéos prochainement.
Prochainement, oui.
Prochainement, formidable. Enfin, on va dire qu'à la technique et à la programmation musicale, nous avons notre ami Laurent Rodier. Attends, j'ai pas fini, Guy, je vois qu'il me fait des signes. Attends, je voulais parler de notre ami Laurent Rodier. Bonjour Laurent.
Oui, c'est moi. Oui, bonjour.
Tu vas bien?
Oui,
et
ça
on
va,
aura,
merci.
Et on aura aussi toujours dans le cadre du tout-terrain, pour parler du Supercross, le show, 100% show.
Oui, le Supercross de Paris-Bercy qui délocalise, qui vient à Lille-Mont-Roy. On aura,
Directeur de l'organisation.
À midi 10, qu'il est justement en direct du stade de Pierre-Mont-Roy.
Pascal Auberti.
Voilà.
À tout à l'heure, Pascal. Musique. We'll be right back.
singing this lonesome song. Seems nothing satisfies me, and too much never unwinds what's been wound up in my heart so long. The price to lie ain't free. No,
I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
nothing I'm doing can ever ease my mind.
I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
these wandering blues are just so unkind. I woke this morning with a low-down jinx all around my bed, so it's double that's on my mind. So I soaked up my warning with a bottle of whiskey in my head, 'cause I know trouble ain't far behind. No!
I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
nothing I'm doing can ever ease my mind.
I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
these wandering blues are just so unkind. And the things I've done, just trying to find my way. And sometimes I wonder if I'm fooling myself, maybe just for fun, while I cry my blues away.
Hey, I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
nothing I'm doing can ever ease my mind.
I wonder why
it's so hard just to love you, baby.
I wonder why
these wandering blues are just so unkind.
Et toujours une programmation musicale de qualité qui te met la pêche le dimanche matin à 11h. Vous entendez, là, il y a des motocross, là, c'est parce qu'on est le deuxième dimanche du mois. Hein, Guy ?
Ah, en effet, en effet. Alors, un petit retour sur les championnats des Flandres de motocross 2014. Calendrier qui a eu quand même quelques difficultés à naître en début de saison, vu peut-être les assurances, les normes. Bon, ben je laisse la parole à Patrick Patini de la Ligue des Flandres.
Ben, tout s'est terminé. La dernière course a eu lieu le 21 septembre à Catillon, dans la Vénois. Une course intéressante. Au programme, il y avait 12 courses. 12 courses sur le championnat. Malheureusement, deux courses ont été annulées. Et sur le même club, pauvre club, à Croisil, un temps horrible. Deuxième tentative, pluie, énormément de pluie, et en plus la foudre. Il faut savoir qu'un point de règlement, on ne roule pas quand il y a de la foudre, ce qui est un peu normal. Donc on est passé de 12 moins, on est passé à 9, hein, il me semble que c'est ça, oui, 9. Dans ces courses, il y a eu un championnat de France mini-vert à Avennes. Il y a quand même eu un championnat de France MX féminin à Condé-sur-Escaut. T'en diras un petit mot parce que je t'y ai vu, Guy.
En effet. On a une photo de toi d'ailleurs, Patrick.
Ouais. Ah bon, en plein travail.
Une endurance moto quad qu'on appelle les 10 heures de tirage. Et puis, je parlerai aussi un petit mot sur la Coupe des Régions qui a eu lieu en Bretagne à Edern, où, je vais même le dire tout de suite parce que c'est quand même quelque chose de fort, fort, fort intéressant pour la Ligue, c'est qu'on a terminé sur le troisième marche du podium, ce qui était longtemps plus arrivé pour la Ligue des Flandres. Je donnerai après les résultats par catégorie, quoi. Donc le championnat des Flandres s'est terminé, je peux donner les résultats si tu veux.
Oui, tu donnes ça par... par... catégorie,
par quoi. Catégorie, ouais. Donc en éducatif, 65 cm3, c'est Bélin Samuel qui l'a emporté. En éducatif, 85 cm3, c'est Montfourny Quentin qui l'emporte. En mini-vert, mini-vert, c'est entre autres, je le dis là vite fait, ça disparaît. Hein. Ça va disparaître complètement, il n'y aura plus de mini-vert. Ça va s'appeler catégorie espoir. Hein. C'est les changements qu'il y a à venir. Là, c'est Tanguy Gabriel, ex-aequo avec Hockey Jérémy, qui lui a participé, entre autres, au championnat d'Europe. Hein. Il monte de niveau, donc voilà, il n'a pas pu faire l'ensemble du championnat. Il ne peut pas être d'un côté comme de l'autre. Alors, en MX2, on a eu Tellier Camille. Et en MX1, c'est Cohen Jérémy. Là, je vais le donner complet parce que le MX1, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire.
C'est
le top, là, vraiment, c'est le top, ça roule. Le deuxième, c'est Van Stipen Julien. Et le troisième, Allier Thomas. Allier Thomas qui fait parler la poudre depuis pas mal de temps. Et je le dis vite fait, en passant, il est licencié au motoclub de Pécancourt.
Ah, ah,
voilà.
Comme par hasard.
Encore une graine de champion.
Par contre, Patrick, je suis un peu intrigué par le nombre total de points. Par exemple, Jérémy Cohen en MX1, 1176 points. Pourtant, dans les manches, c'est 30 points. Comment
oui. Alors là, il faudra peut-être s'adresser au, j'irais dire, au secrétariat. Je ne peux pas te donner de réponse bien, bien précise là-dessus, quoi, hein, au risque de me planter.
Il y a des bonus.
Voilà. J'ai oublié une catégorie qui est extrêmement importante aussi. C'est les anciens. Il ne faut surtout pas les oublier. J'en fais presque partie. Là. Les vétérans. Alors, les vétérans, c'est l'indétrônable Van der Missen, Serge, qui, lui, indéboulonnable. On n'arrivera jamais à le retirer de cette première place. Suivi de Prudhomme, Thierry et de Mouquin, Dominique. Donc, voilà pour le championnat.
Le championnat. Donc, tout à l'heure, tu parlais de Condé-sur-Escaut, où vous avez eu une épreuve du championnat de France.
Oui.
C'était la finale du championnat de France féminin avec Livia Lancelot. Donc,
extraordinaire.
On a pu faire une interview. Elle a très apprécié le circuit de Condé.
Ah.
Au niveau sécurité et puis traçage, quoi.
Oui. Il est vrai qu'il fait partie de l'un des plus beaux circuits, très large. C'est un circuit qui peut se permettre d'accepter des courses de quad, également de side. Hein, donc, beau circuit, c'est vrai qu'elle a dû sûrement apprécier. Par contre, moi, j'ai apprécié les compétitions féminines là-bas. Hein.
Ah ouais, parce que
c'était... je suis loin d'être un macho, je pense, hein, voilà, ni misogyne. Mais alors, quand on voit ces demoiselles et ces dames sur une machine, ça coupe le souffle.
Ah, ça coupe le souffle.
Admiratif.
Il y a certains, même MX1, des jeunes qui ont dû se poser des questions. Hein. Ouais, ça roule très fort, ça met des watts. Hein.
Il faut savoir aussi qu'Olivia, elle a été championne du monde de motocross.
Bien sûr.
Il y a quelque temps.
Elle devant, sans problème.
Pour revenir à Condé, parce qu'avec Jean-Michel Sulski, hein, le président de Condé, lui, son but aussi, c'est d'organiser un championnat du monde de sidecar cross.
Oui, il voudrait. Ça fait partie de ses ambitions, de ses idées.
Hein. Sauf qu'il y a peut-être un problème de parking là-bas, peut-être.
Problème de parking, un problème d'homologation aussi de terrain.
D'accord.
Je peux même dire maintenant, puisque c'est plus une surprise, c'est que la FFM deviendrait propriétaire du terrain. Mais c'est un problème d'homologation et le brave Jean-Michel, c'est qu'il en bave avec, les protecteurs des escargots et des limaces.
Hein. Ouais. Et des volatiles.
Et voilà. On en parlera tout à l'heure.
Don't need a doctor.
Vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission Kikinkou Tête ou Pâle, aujourd'hui consacrée au tout-terrain, Guy.
En effet, alors du motocross, de la terre, de la poussière, de la boue, on va passer au sable. Mais avant, Patrick, tu vas nous donner les résultats du championnat de France de Ligue.
La Coupe des Régions. Qui est une épreuve obligatoire pour chaque ligue. Et qui engage des pilotes. Évidemment, il y a une sélection qui est faite au niveau de la Ligue. Et on a terminé cette année sur la troisième marche du podium, ce qui est quand même beau. Il y a quand même 20 régions de représenter. On est à 9 points du deuxième, qui est la Provence, il me semble.
Ouais,
donc c'est quand même une performance qu'il faut signaler.
Il faut signaler.
Ouais. Et surtout, bien remercier les pilotes qui ont participé. Il y avait Thomas Lié qui était en 450 cm3, Victor Brossier en 250 cm3, Rodrigue Train en 125, Antoine Fondu en 85, Louis Boulard en 85 également, ainsi que Jérémy Hoquet en 85. Donc ils ont fait parler la poudre pour y arriver. Hein, voilà. On ne va pas trop rentrer dans les détails par rapport aux points, la façon dont ça se passe, mais c'est un partage de points quoi, finalement.
D'accord. Voilà. Donc sans transition, on va parler du sable.
Oui.
On va parler du sable avec le début des championnats de France de course sur sable. La première épreuve a eu lieu à Berck,
le 18 et 19 octobre.
Voilà. Ouais. Donc le calendrier, il est déjà publié.
Oui.
Hein, il y a 5 épreuves, je crois.
5 épreuves.
5 épreuves, ouais. Avec la finale au Touquet.
Au Touquet.
Donc, tu étais directeur de course à Berck. Alors, est-ce que tu peux parler de cette course qui est un schéma différent, par exemple, de l'enduro du Touquet?
Tout à fait. C'est la formule Sandcross, qu'il appelle. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins plagié, copié sur des manches de motocross, hein, sur
D'accord.
terre. En 20 minutes et un tour, il y a des différences. Les Open, les juniors roulaient en 12 minutes, les jeunes en 15 minutes. Enfin bon, il y a des différences. Mais ça se termine toujours par des finales, hein, deux finales. Alors ce qui est impressionnant, c'est que sur une grille de motocross, il y a 40 à 45 pilotes. Là, c'est par centaines de pilotes. Hein. Je ne connais pas le chiffre exact, je ne l'ai plus en tête. Donc, ça roule très fort. Le beau temps était de la partie. Beaucoup de pilotes, un public. Bah oui, il fait beau, donc forcément, ça attire du beau monde.
Sort, ouais.
Et surtout, une chose très importante, pas d'accident. Ouais. Pas d'accident. Il n'y a eu qu'une fracture de clavicule.
Bon, ouais, c'est le pourcentage.
Voilà. Et puis un petit peu de bobologie, mais autrement, ça c'est bien. Parce que des grosses épreuves comme ça, avec autant de monde, ça fait toujours peur. Hein. On a assisté à des courses, surtout en MX1 et en quad. C'est époustouflant, quoi. Ça roulait très fort. Avec des gars comme Ramon, avec Adrien Van Beveren, avec et d'autres, Jean-Claude Mousset, etc. On en parlera un petit peu. Donc, les résultats sont simples. C'est Ramon qui termine en tête.
Steve Ramon, qui a été quand même double champion du monde de motocross.
Voilà. Hein, ouais.
Et très habitué de courir dans le sable.
Qui roule très fort dans le sable. Après des graves blessures, il est revenu. On ne pensait plus jamais le revoir. Il est revenu aussi fort,
mais il ne roule
même plus fort.
Il ne roule plus en championnat du monde.
Hein, non. Il met dans le sable le chapeau, hein, il l'allume. Il termine, mais il ne bénéficiera pas des points, puisqu'il est belge. Et c'est le deuxième, Adrien Van Beveren, hein, qui fait bien l'affaire avec 50...
Champion sortant.
50 points. Hein, 5, il démarre donc champion, 50 points. Suivi de Martens, de
un
Mousset.
Autre belge. Martens, c'est un autre belge. Hein.
Oui. Mousset, Furat et Chapelière. Chapelière, un petit jeune aussi, qui pointe au bout de son nez, qui fera parler de lui, ainsi que Brossier.
Et on a pu voir aussi, au départ, Arnaud de Bester, Mister Sable, Mister Sand, 7 ou 8 fois vainqueur de l'enduro de hockey, sur une moto française,
Charco.
Ouais, voilà. Et j'ai vu qu'il a terminé dans les 20.
Non, même pas. Il est 10 ou 11. Hein.
Oui.
Bah, lui, c'est l'addiction. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'il n'arrivera jamais à ce. Le sable, c'est le sable. Et il revient, il fera le touquet hein, pour fêter son 20. C'est après 20 ans. Et 20 ans qui faisait son premier. Qui gagnait, quoi. Il sera là. Donc il y avait quand même du beau monde en présence. Les quads, alors il y a aussi les courses de quads, courses magnifiques, hein, nombreux. Ben, c'est Varnia, l'intouchable, qui est du motoclub de Gouy, motoclub ici du Pas-de-Calais, qui termine premier, suivi de Coupri qui est pas non plus un mauvais, hein, puisqu'il a été champion de France un paquet de fois, je crois même champion du monde, il était époque sur Terre. Hein. Terninck et puis beaucoup d'autres, Rochereau, enfin Cherlin, enfin voilà. Impressionnant les quads, impressionnant.
Alors la prochaine épreuve des courses sur sable.
Alors là on part dans le sud-ouest, Saint-Léger-de-Balzon.
Du côté de Bordeaux là-bas.
Le sud-ouest, ils sont très forts. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'ils vont trouver encore une épreuve supplémentaire, ainsi que dans le nord, il y aurait, mais on va le mettre entre guillemets, il faut que tout ça se soit confirmé. Format 1 reverrait le jour.
Hein. Ah, d'accord.
Oui, Format 1. Et puis, donc ça ferait qu'on passe de 5 à 7 courses.
Voilà. Tu restes avec nous, Patrick ?
Oui.
À tout à l'heure. Snap my hand on my forehead.
Ooh.
On disait tout à l'heure qu'il y avait eu deux tués cette année et des blessés notamment dans le public en tout terrain. Et du coup, les autorités maintenant s'inquiètent ainsi que la Ligue et des normes en fait, en quelque sorte, de sécurité sur les circuits de motocross.
En effet, sur les circuits de motocross et sur les circuits de sable, enfin principalement sur le tout terrain. Alors récemment, il y a eu une réunion à la fédération avec les représentants de l'UFOLEP. C'est un peu concurrent à la FFM, mais bon, ils font le même sport, hein, le motocross principalement. Donc pour cette année, il va y avoir sur les circuits de motocross un appui plus fort sur la sécurité,
oui,
suite à des blessés et aussi deux décès sur les circuits. Patrick.
Tout à fait. Moi, je crois que tout est parti entre autres. Bon, la sécurité, ça a toujours été un souci, hein, pour un organisateur. Mais là, il suffit qu'il y ait des blessés graves, voire même, malheureusement, quand des tués, ça inquiète. Ça inquiète la FFM, ça inquiète les ligues, et ça inquiète aussi les autorités préfectorales ou autres. Hein. Ça, il suffit qu'il y ait trop de blessés sur une route pour qu'on cherche un peu les causes. Bon, et là, c'est l'accident de Saint-Tibéri, où il y a eu quand même un tué, un spectateur tué, le pilote grièvement blessé, plus deux autres spectateurs, dont une petite fillette. Hein. Bon, là, inquiétude. Quelques temps plus tard, c'est un commissaire dans l'exercice de ses fonctions qui est tué par une moto. Donc, boum. À partir de ce moment-là, tout de suite, la FFM s'est dit, réunie avec l'UFOLEP, ils ont cherché, savoir, et puis il faut mettre des choses au point, sinon... à long terme, c'est la fin des circuits, c'est la fin du motocross. J'exagère, j'anticipe, je vais très loin. Mais il faut faire quelque chose pour la sécurité. Les risques zéro, on dit ça n'existe pas. Je ne suis pas trop d'accord. Je suis pour accident zéro, oui.
Pourtant, il y a quand même une réglementation déjà.
Oui, il y a des réglementations. Mais je dis que tout le monde est un petit peu responsable sur les circuits. À savoir que l'organisateur, il est tenu de sécuriser au maximum et de favoriser la sécurité sur son terrain. Il y a aussi les pilotes. Les pilotes sont parfois aussi... Enfin, sont responsables. Le public est responsable. Quand on voit une famille avec deux enfants en bas âge accrochés au grillage dans une trajectoire de moto, je me dis, si jamais il y en a un qui se rate, je sais qu'en j'officie, je vois ça, je me dirige souvent vers les gens en disant, écoutez, écartez-vous. Si le gars il fait un tout droit, il n'y a plus d'enfant. Hein.
Ou de traverser, c'est clair. Ou de traverser les pistes.
Oui, ça devient quand même rare. On fait le maximum. Donc la FFM a décidé d'envoyer des experts. On les appelle ça comme ça. Des experts sur les circuits et qui font le tour. Guy, tu as le document face à toi. Tu vois, c'est quand même du très sérieux. De manière à sécuriser un maximum les terrains. Je vais donner deux petits exemples tout simples. Les pneus de camion ou d'engins agricoles sont interdits. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment... c'est tapé dans un mur. Hein. Voilà. Les pneus de voiture, oui, mais les pneus de voiture sont emballés dans du plastique. Il y a une double sécurité, c'est-à-dire un barriérage. Il y a un mètre, voire deux mètres d'écart. Et de l'autre côté, encore un barriérage. De quoi quand même retenir des machines. Vite fait, moi j'ai gardé un souvenir, je ne citerai pas le lieu, sur un accident qui a eu lieu l'année dernière, sur le Nord, un gars qui a fait un tout droit, s'il n'y avait pas eu un double barriérage, on aurait eu des morts. C'est à peu près certain, aussi des jeunes qui se trouvaient là. Donc on comprend très bien le souci, et puis il faut que tout le monde s'y mette. Et la Ligue des Flandres, à ça, elle a répondu très sérieusement, puisque la Ligue, il faut aussi qu'elle aide. Et la Ligue, maintenant, donne 500 euros de prime à l'organisateur, qui respectent les normes de sécurité. C'est jamais parfait, mais on va se rapprocher tout doucement de ça.
Parce que ça va demander quand même des financements importants d'adapter les circuits à cette norme de sécurité.
Bien sûr.
Oui, parce que déjà, les assurances qui ont doublé certains organisateurs, clubs, vont avoir
des frais supplémentaires.
Des frais supplémentaires. Ouais, ouais.
Mais la Ligue est prête à les aider. On parle déjà de 500 euros par course. Et la Fédé, je peux dire aussi que la Fédé reversera aussi au club organisateur des sommes pour aider à investir dans la sécurité. Un petit chose très vite fait, la poussière sur les terrains. Bon, je ne parlerai pas du club que tu connais très bien. C'est l'année dernière, une poussière pas possible. Hein, ça veut dire sur le terrain, on n'y voyait plus rien. Mmh. Maintenant, un terrain trop poussiéreux où la poussière ne s'évacue pas, il n'y aura plus de prime de 500 euros. Il faut à tout prix scarifier, c'est-à-dire griffer le terrain et le mouiller. Hein, parce que mouiller un terrain sans le griffer, ça ne sert strictement à rien. Hein. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la sécurité.
Et ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens.
Et on aura sûrement l'occasion de revenir sur sur les sécurités de circuit plus profondément, parce que là, ça vient de sortir. Hein,
ouais, c'est ça.
Tu restes avec nous, Guy. On va parler de l'enduro vintage après. Ok. Ce morceau de musique.
Stranger.
Et pour aborder le sujet du premier enduro vintage qui se déroulera du vendredi de l'Enduropale, on en dit tout à l'heure qu'on avait un scoop. Et notre scoop, c'est qu'on aura un team Kikinkou à l'occasion de cet enduro vintage. Et pour en parler, nous accueillons Lamiche dans les studios. Lamiche.
Oui, bonjour à tous. Effectivement.
T'as décidé de devenir une graine de champion.
De participer à cet anniversaire, 40 ans d'enduro, quand même, ça se fête. Et puis en plus, je possède la machine qui rentre bien dans le truc. Quoi. Donc voilà. Et donc,
c'est laquelle, l'Harley, non?
Oui, voilà, c'est ça. On peut pas faire Patrick avec une Harley Davidson, l'Enduropale.
Ils ont tenté une année le All Shot. Mais bon, le gars, il s'est tanké en beauté. Parce qu'il y a tellement de coupes.
Donc là, ça sera plutôt un XT500, c'est ça?
Voilà, ça sera plutôt un XT500 79. Donc ça rentre dans le truc, dans le petit package 80, je pense.
Oui. Soit modeste. Voilà. Quant à la puissance.
Modeste, oui, toujours.
Parce que tu sais, une machine qui est lourde, il faut l'emmener, même un quart d'heure.
C'est 20 minutes, je crois. Hein. C'est 2 fois 20 minutes. Ouais.
Alors, je vais te poser quelques petits. Demander des conseils. Parce que je suis plutôt sur la piste, sur le bitume, que plutôt sur le sable. Hein. Ce sera une première pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le pilotage?
Oui, mais pour déjà la tenir, c'est en accélération constante. Sinon, tu saucissonnes dans tous les coins, puis tu finis par terre, quoi. Hein, voilà.
Bon, ceci dit, c'est simplement aussi pour participer à l'événement, pour fêter cet anniversaire. Il n'y a pas du tout de prétention de
pour quiconque.
De participer.
Et il faut une condition physique quand même, j'imagine.
Oui. Là, il faudra demander à Vincent Cambier, parce qu'il est pote avec, qui va lui indiquer le nombre de pompes.
J'irai voir Vincent.
Ça va pas rigoler là.
Alors c'est le 40e anniversaire de l'enduro du Touquet. On parlait justement du vainqueur en 75 qui était
Vernier.
Voilà.
Vernier. Sur quelle machine? Une Ossa.
Ossa, Ossa, c'est une machine.
C'était une machine. Stéphane, une machine comment?
Pays de l'Est.
Espagnol.
Ossa,
ça veut dire guêpe.
Tu as raison.
Quelle culture.
Ossa et espagnol.
Ça, vraiment les spécialistes autour de la table.
Voilà, Et Jacques Vernier, il ne faut pas confondre avec le maire de Cambrai ou de Douai.
Douai.
C'est lui.
Non, c'est pas lui.
Donc, cette course aura lieu le vendredi, c'est-à-dire la veille de l'enduro qui se déroulera le samedi et le dimanche. Enfin, principalement le dimanche pour la grande course du championnat de France. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Patrick, sur cette...
Moi aussi, on a un scoop, parce qu'on a un président qui a fait président du motoclub de Pécancourt, qui a fait du motocross dans le passé. Donc, je pense qu'on va demander à Joël Pirage de représenter le motoclub là-bas, en vintage. Hein.
Allez.
Donc, on le mettra à côté de la miche et on verra le meilleur des deux.
Oh, je vais lui mettre une pige.
Surtout qu'il y aura des anciens champions aussi qui vont y participer.
Oui, je pense. Ben, la liste, pour l'instant, ils sont une petite cinquantaine d'inscrits. J'ai pas vu de grand nom. Tu l'avais.
C'était prévu.
Moi j'ai les vainqueurs de chaque année. Par exemple, Daniel Péan qui est toujours. Il roule plus, mais c'est un gars qui pourrait venir. Le deuxième, Gilles Francru, parce que Gilles Francru qui est troisième vainqueur de l'enduro. J'étais son manager de l'époque, alors tu vois, je l'ai fait gagner. Hein. Patrick Dorbeck, malheureusement, ce pilote est décédé. Ensuite, on aura Håkan Karlqvist qui a été champion du monde. Mais est-ce qu'il viendra? Ça, c'est mystère. Parce que tous ces pilotes, s'ils viennent, ils demandent toujours, malheureusement, c'est business aussi.
Une prime de départ.
Une prime de départ. Hein. Ouais. Alors, en 40 ans d'enduro du Touquet, il y a eu pas mal de... des annulations, des tempêtes, des contestations, on peut écrire un bouquin sur ce Touquet. Hein.
Ah, le Touquet, oui, mon Dieu, oui.
Bon, si jamais j'ai la chance de terminer premier de cette épreuve, Patrick, je promets au motoclub de Pécancourt de mettre la casquette du motoclub devant la caméra. Hein.
Oui.
Comme j'ai vu que de toute façon, il faut absolument mettre la casquette. Hein, c'est le sponsor, il faut respecter.
Tout à fait. Ouais. Bon. Ah ben là, t'as des chances d'avoir une licence
gratuite.
Il aura au moins gagné une casquette comme ça. Vous restez avec nous, on va ensuite...
En 87, qui c'est qui avait gagné?
Oula, là, là, écoute, 87, 80, c'est fin. Non, non.
Personne.
Ah bon, personne. Ah bah oui, c'était...
Lève personne à Suédois. C'est...
Ah oui, c'était...
Oh là là, là. Quelle culture, quelle culture. Vous restez avec nous, nous partirons ensuite avec Stéphane et Valérie en Islande. Et pour avoir notre dose d'aventure dans cette émission de Kick un coup, nous accueillons donc Stéphane et Valérie. Bonjour Stéphane et re-bonjour.
Re-bonjour.
Stéphane et Valérie qui ont l'habitude de voyager en couple.
Oui. Hein,
et vous n'êtes pas donc à votre coup d'essai puisque vous êtes allé déjà aller en Corse, je crois, en 2005, en 2006, en Croatie en 2009, aux USA en 2011, en Scandinavie en 2012.
Oui.
En 2013, vous avez décidé de redécouvrir, voilà, c'est ça, la France. Et vous avez eu beaucoup trop chaud. Et c'est pour ça que vous avez voulu aller en Islande.
On a eu beaucoup trop froid.
Ça vous apprendra.
Pas froid, mais humide.
Bon, vous avez quand même choisi la bonne période, hein, fin juin, de fin juin à fin juillet. Parce que, bon, en hiver, j'imagine que ça doit être un petit peu difficile.
Bah, en fait, les deux mois d'été sont les seuls mois qui sont praticables là-bas, notamment pour les routes secondaires. Puisque même au mois de mai ou à partir de la fin août, on peut déjà avoir de la neige.
Ouais, quand même. Mm-hmm. Donc, tu as eu une révélation en février 2003 en allant au Touquet avec un,
c'est ça,
avec
oui.
un pote à toi en
bécane. La découverte complète de la moto, puisque c'était...
Tu connaissais pas
Non, du tout. J'ai passé le permis moto, je crois, la semaine suivante. En fait, on a fait l'enduro pour toujours rester dans la thématique. Et il faisait froid, il pleuvait. Et bizarrement, j'ai adoré ça.
Ah ouais.
Et je crois que la semaine suivante, je m'inscrivais au permis moto.
T'es un vrai motard, toi, hein ? T'es un fêlé aussi.
Là, oui. J'ai commencé sur le tard, vers 26-27 ans, mais depuis, j'ai pas arrêté.
La révélation.
Non, ouais. C'est ça.
Donc, tu as commencé par une ER5.
Oui, une petite moto.
Voilà, histoire
moto
de prendre un peu, voilà, pour faire la main.
Une et après, t'es passé sur... Que voilà. J'ai toujours, qui approche les 100 000 km maintenant. Et depuis peu, une Transalp qu'on a achetée pour, spécifiquement pour aller en Islande.
En récupérant, j'ai vu la bagagerie du GSXF. Oui. Et c'est vrai qu'elle était bien chargée déjà.
Elle était bien chargée, oui.
Pourquoi aussi un Transalp pour l'Islande ? Parce qu'il n'y a pas que du bitume.
Et non, en fait, la plupart des routes... En fait, il y a une route, la route principale, qui est bitumée, et encore pas partout. Et sur les routes secondaires, en fait, on a toutes sortes de conditions. Donc, il n'y a plus d'asphalte. Ça s'arrête comme ça d'un coup. C'est gravier, terre battue, tôle ondulée.
Et tu t'étais un peu entraîné avant à rouler sur du chemin ?
Un petit peu, en fait. En ayant eu la Transalp, j'ai fait des tours dans la campagne autour de chez moi. Sur les chemins de tracteur pour essayer de voir un peu comment ça marchait.
J'ai vu, donc tu as un blog hein, vachement bien fait qui s'appelle Tout dit en vadrouille.
C'est hein. Ça.
J'ai pris un moteur de recherche, j'ai mis comme ça, phonétiquement Tout dit en vadrouille, on tombe dessus sans problème. En plus, c'est facile à retenir, ça oui. Tombe bien. Et j'ai vu que tu avais quand même préparé ton voyage avec les outils qui vont bien.
Oui, préparation le minimum, de la moto. La préparation de la moto importante en fait, partir avec une moto révisée évidemment. L'avantage de rouler en Honda Transalp, comme on dit, c'est qu'on voyage assez léger puisqu'on n'a pas besoin de pièces de rechange. Ça, c'est important d'avoir une moto fiable. Sinon, préparation basique, en fait, pneus, freins, toutes les vidanges faites, et puis voilà.
Je sais que donc on arrivera après l'Islande, mais pendant un moment, vous êtes à un endroit, alors je ne peux pas dire le nom parce que je ne pratique pas trop IKEA et ce type de. J'ai un peu de mal avec ce nom comme ça, mais vous êtes à un endroit où la première ville est à 100 km à l'ouest, je crois.
C'est ça, oui.
Et la dernière maison que vous avez croisée à 60 km
voilà.
À l'est.
C'était assez Seydisfjörður. C'est pas facile à dire et encore moins à écrire. Quoique au Scrabble, je pense qu'il y a moyen de péter les scores.
Ah, tu m'étonnes.
Mais oui, effectivement, c'est certains secteurs du pays, notamment l'Est, le Sud-Est, le Nord-Ouest, sont très très peu peuplés en fait.
Et oui, mais donc je pensais à ça au niveau de la préparation. T'as pas intérêt à tomber en panne ou à avoir une crevaison. Comment tu fais là au milieu de rien comme
ben,
ça.
C'est une bonne question en fait.
Comment tu fais
on a découvert ça là-bas qu'en fait il n'y avait pas, ou du moins on n'en a pas vu, de garage moto en fait.
Et donc, t'avais pris une assistance
C'est l'assistance classique de l'assurance, mais bon.
Ouais, pour te trouver au milieu de rien, ça va pas être facile non plus. Quoi.
Au milieu de rien, il y a toujours
c'était
du passage, en fait.
La compagne, non la compagne qui s'occupait de la mécanique.
Non, alors là, je suis une bille en mécanique.
Et donc, toi, en tant que passagère, le passer du GSXF au Transalp, une nouvelle expérience ?
Ah, une nouvelle expérience, et je dirais que même la Transalp est beaucoup plus confortable pour moi, parce que là, je suis beaucoup plus calée, beaucoup plus proche du conducteur, je suis calée entre le conducteur et les top cases à l'arrière. Donc pour moi, je suis plus comme dans un fauteuil, en fait. Et l'assise est vraiment très, très confortable.
Vous faites plus qu'un, comme ça ?
Exactement.
vous avez choisi ensemble la destination l'Islande ?
Oui, toujours, oui.
Oui. Oui, oui, oui.
Et vous préparez, j'imagine, le voyage ensemble
et... On regarde des blogs, chacun de notre côté, et après on rassemble ensemble ce qui nous donne envie, ce qu'on a envie de faire. Et chacun donne vraiment ce qu'il a envie de faire, et on fait chacun notre expérience ensemble.
Ok, vous restez avec nous ou on continuera sur cette expérience en couple ?
Kabaganta, Chucho, Hokong Kong Kadanta, Ishakuna Nicha, Bapalula Nicha, Bon Paticha, Isong Kong Gere. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer.
On va revenir en Islande, la terre des extrêmes et de contrastes, avec des paysages sauvages qui, selon le temps et l'éclairage, évoquent le début ou la fin du monde. C'est beau, hein, tout un programme, hein, ça donne envie. Donc après la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, vous prenez le bateau, 2 jours de bateau, je crois.
C'est ça, et en fait, et vous arrivez. Il ne faut pas le louper puisqu'il y a un seul bateau par semaine.
Par semaine.
Donc si on veut y aller avec son véhicule, on n'a pas le choix. C'est le mardi matin à Hirtshals au Danemark.
C'est ça que tu avais du mal à dormir la nuit, là. Tu avais peur de louper le bateau.
Il y a toujours l'appréhension de louper le réveil et puis que le bateau part sans nous. Et puis on est obligé d'attendre une semaine.
Voilà, un peu long la traversée, 2 jours, je crois.
Oui, ouais. Surtout au retour. Enfin, l'aller, ça va puisqu'on est excité par le départ, la découverte. Mais au retour, avec en plus le fait de devoir rebosser la semaine suivante, c'est un peu plus compliqué.
Et donc, vous débarquez en Islande. Les conditions climatiques sont
dantesques. On est arrivé. Déjà, on s'est pris une tempête dans l'Atlantique Nord. Ensuite, on est arrivé là-bas, il pleuvait et il faisait 5 degrés avec de la neige sur les bas-côtés encore. Et donc là, on s'est dit, mon Dieu, où est-ce qu'on débarque ? Mais heureusement, en fait, la température du moins s'améliorait peu après. On a eu entre 10 et 15 degrés au mois de juillet, mais il fait rarement plus là-bas.
Il y a un proverbe qui dit en Islande, s'il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir, c'est ça ?
Oui, c'est un peu ça. Ou si la météo ne te plaît pas, attends 15 minutes.
Et quand tu pilotes, c'est toi qui conduis, t'es dedans et tout. Mais quand t'es passagère avec des conditions climatiques comme ça, des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, non ?
Oui, c'est vrai. Bon, quand on est arrivé, c'est vraiment la découverte. On regarde un peu partout. C'est vrai que quand il fait moche. Là, on a plus envie de se mettre dans une coquille, de se cacher. C'est vrai qu'on a eu une journée où il a plu beaucoup avec du vent de côté. Donc, c'est vrai que bon. En même temps, on se dit bon, c'est pas grave. Demain, il fera meilleur, quoi. Enfin, mais c'est vrai que du coup, l'Islande, c'est un très bon exercice au niveau conditions climatiques. C'est vrai qu'après, quand on revient en France et qu'il pleut.
Les deux dans les.
Exactement.
Ouais, vous disiez qu'il y avait tellement de vent, un vent latéral, tellement important, que c'est comme si tu roulais, comme si tu prenais une courbe, en fait.
Exactement, oui. On a fini une fois à 30 km/h parce qu'on ne pouvait pas aller raisonnablement plus vite.
Et il y avait il pleuvait, c'était vraiment.
Oui. Et là, on est content de rentrer dans la guest house au chaud pour pouvoir boire, se réchauffer, prendre une bonne douche et aller se coucher parce que c'est vrai que c'est aussi fatigant. Le temps, et c'est vrai que les paysages, c'est extraordinaire. C'est vraiment un pays magnifique et ça prend au trip parce que c'est vraiment spectaculaire, on ne retrouve pas ça ailleurs.
Ouais, avec des grands espaces où il y a très peu de monde finalement, oui. Donc cette sensation de liberté. À chaque virage, on se dit voilà, on a vu le plus beau, on ne verra pas le plus beau, et puis à chaque fois, on voit quelque chose d'encore plus beau. Je l'ai lu sur votre blog, mais c'est pas moi qui l'ai inventé.
Disons que c'est vrai qu'à chaque virage, le paysage change. Et c'est vrai qu'on dit, ah, c'est beau, c'est beau. Et puis au virage suivant, le fait d'être dans une autre configuration, c'est bon, ben on n'a pas encore tout vu, quoi.
Et ça t'a pas donné envie de piloter une machine aussi?
Ben, il y a des moments, pas tellement, parce que quand on se retrouve avec un goudron tout neuf et un caillou, enfin, la route refaite, mais plein de cailloux, là, ouais, non, j'ai pas très envie, non. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, on était un peu frustrés, parce qu'il y avait des routes qu'on voulait emprunter, où on pouvait pas, parce que c'était vraiment des routes à 4x4 et vraiment accidentées.
Oui, Patrick ?
Oui. Et vous êtes passé à côté du volcan ?
Oui. Et on l'a vu.
Il n'y a pas trop de poussière, parce que je parlais de poussière tout à l'heure.
Il y en a encore, en fait.
Il y en a encore.
Ils ont ouvert un musée, d'ailleurs, la ferme.
Ça va être impressionnant.
Qui a failli être enseveli. Ouais, ils passent un film documentaire.
Ouais. Oui, oui. Ça, on se dit vraiment, quand il se passe quelque chose en Islande, il faut vraiment écouter ce qui se passe, parce que ça ne pardonne pas. On était à un moment, à un endroit où, effectivement, quand on voit des consignes de sécurité par rapport à une éventuelle éruption, on se dit, bon, ok, là, vraiment, quand il se passe quelque chose...
Vaut mieux pas que ça arrive, quoi.
Voilà.
Il y a des photos de coulées de lave aussi, j'ai vu.
Oui. Ah oui, on a traversé des champs entiers de lave à perte de vue. Ouais.
Par contre, pour les pneus, ça doit pas être...
Oui, le pneu
a souffert un peu.
Beaucoup.
T'en avais un de rechange, non?
Non.
Et il n'y a pas de garagiste sur l'île?
On n'en a pas vu. A priori, il y aurait un garage Honda sur Reykjavik, la capitale. Mais
T'avais pris des rustines avec toi ou...
J'avais.
L'aventure
oui.
Complète.
Oui. Oui.
Vous restez avec nous. Ensuite, on ira voir les baleines,
oui.
Les icebergs. Hein,
et les sources d'eau chaude.
Et des sources d'eau chaude. Et puis la croisière s'amuse aussi, je crois.
Oui.
À tout à l'heure.
Oh yeah, it was electric, so frantically happy.
Avant de retrouver Stéphane et Valérie et leur voyage en Islande, nous allons parler du Supercross de Paris-Lille qui va se dérouler le 15 et 16 novembre avec Pascal Auberti de La Rivière Organisation. Tu es avec nous au téléphone, Pascal ?
Oui, bonjour.
Oui, alors bonjour Pascal. Voilà, le Supercross de Paris-Bercy délocalise, arrive chez les Ch'tis sur le stade Pierre-Mauroy, étant donné que Bercy était en travaux, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, absolument. Bercy ferme pendant 2 ans, ils ont accueilli le tennis et il n'y avait pas de place pour le Supercross, donc il a fallu trouver une grande salle. Et il n'y a pas beaucoup de salles en France qui sont susceptibles de pouvoir recevoir le Supercross de Paris-Lille.
Avec aussi un toit amovible, c'est-à-dire couvert, stade couvert, c'est assez rare en France, je pense.
Je vais être clair, il y a pour faire un supercross comme le supercross de Paris, il faut 16 mètres de haut pour les freestylers et les sauts de moto.
Ah oui, aussi, oui.
Donc Bercy, ça le fait. Lille, c'est largement tranquille. Et puis encore, il y a une autre salle en France, dans le sud de la France, à Montpellier. Sinon, toutes les salles font 14 mètres 50 de haut et les freestylers passent pas. Donc, et quand on a vu, nous, le stade de Lille, bah voilà, quoi, la scène, elle est là, c'est une scène américaine.
D'accord. Et par exemple, aussi, au niveau des spectateurs, 22 000, c'est-à-dire beaucoup plus qu'à Bercy aussi.
Bah, le double.
Le double.
En une soirée. Le double en une soirée, c'est tout. Hein. Moi, ça fait quand même 30 ans que je le fais. Il va y avoir un peu de la chair de poule, un peu de trac hein, sur la première séance du samedi qui est pleine.
Parce que vous changez de lieu, c'est ça ?
Oui, absolument. Donc là, on arrive là à Lille et samedi, ça va être plein et ça va être impressionnant.
Parce que vous avez vu d'abord le circuit avec Pastrana qui était venu là en début d'année, je crois.
Notre circuit.
Oui, voilà.
Super fête.
Ah, c'était super, oui. Ouais. Mais par exemple, tout le stade, est-ce que le public sera tout autour des places ou seulement d'un côté, je crois, non ?
Non, nous, on joue en U, en fait. Il y a le rideau, le stade est fermé en deux. Il y a un grand rideau noir. Et en fait, nous, on joue avec trois grandes tribunes qui entourent le stade, la piste.
D'accord. Et un petit mot aussi sur les teams qui vont disputer cette 32e épreuve. Et figure-toi aussi que le stade, il est à peu près à vol d'oiseau des studios, à 500 mètres de la fenêtre. On le voit. Ouais. C'est dommage que je crois que tu es sur le stade là, non ?
Moi je suis arrivé là, ça y est.
Sinon tu aurais pu passer au studio et boire une bonne bière ch'ti.
Mais il peut toujours venir après hein, c'est pas un souci hein.
Non, voilà. Mais là la bière c'est interdit pendant 10 jours là.
Ah d'accord.
Il travaille si tu veux.
Il est même pas question de boire quelque chose. Il y a une grosse pression. Donc on veut faire un spectacle magnifique. Il y a le potentiel, le stade est hyper technique. Donc à 500 mètres, vous allez presque entendre les motos, peut-être un petit peu, samedi soir. Mais non, ça va être un truc grandiose. Mais simplement, il faut pas, voilà, faut faire présenter un spectacle de qualité comme on avait l'habitude de faire. Et là, une capacité de salle qui double, quoi. Donc samedi, on est plein, dimanche, il y a encore des places. Mais si on marche bien, l'année prochaine, on fait le plein les 2 jours, c'est sûr.
Ouais, surtout que vous avez un team américain de haute volée, là, cette année encore.
En fait, le Supercross, c'est un sport spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat, c'est pas un championnat du monde. Donc, en fait, on va chercher des pilotes américains et on organise toujours un match France-US parce que les deux nations sont battues pendant des années entre Jean-Michel Bell et Tom McGrath. Donc là, on a Barcia, on a Thomas qui sont des top pilotes, qui sont dans les 5 meilleurs américains. Tu les vois jamais en France. Tu les vois jamais en Europe. Donc là, ils viennent et ils vont se confronter avec Dixie, avec Tourcelle. Donc il va y avoir encore le match France-US, quoi, c'est à chaque fois.
Donc il va aussi Jordi Tixier qui sera là aussi, le tout nouveau champion du monde MX2.
Exactement. Ouais. Et donc là, il va leur mettre une pression. Ils vont, souvent les Américains, entre Tourcelle, Tixier, Souberas, Ferrandis, ils vont avoir une grosse pression parce que de toute façon, les Français jouent sur place. Et ils sont encouragés par le public et ils n'ont pas l'habitude, les pilotes, d'avoir autant de public autour d'eux. Et à partir du moment où ils entendent la foule hurler, c'est comme tout sportif, ça les met en transe. Hein.
En effet. Et la piste, elle est toujours tracée par...
Jean-Luc Couchet.
Jean-Luc Couchet, oui.
Voilà, Jean-Luc, il est à côté de moi, c'est au millimètre. On est déjà en train d'étudier les départs, les sauts, etc. Tout est au millimètre.
Et en plus, nous allons avoir aussi un pilote nordiste, c'est Potisek,
Milko
Potisek.
Eh oui.
Et je voudrais rappeler aussi que son oncle s'est blessé à Bercy, parce que moi j'y étais il y a une trentaine d'années. Hein,
Rudy
Potisek, hein, qui s'était blessé.
Au tout début, il y a 30 ans c'était le tout début, moi ça va être mon 25e.
Ah d'accord, moi je dois, j'étais dans les 4-5 premiers, tu vois, il y a déjà pas mal d'années. Donc tu disais qu'il restait encore des places.
Après, et puis après il y a tout le freestyle, hein, parce que c'est...
Ah oui, en effet aussi, oui.
Par rapport au Nitro... Ce qui est important, c'est que tu as des courses de super niveau, tu as Chemin de France, et puis ensuite tu as le freestyle avec Chian quand même qui a gagné les X Factor en 2014, Tamat Rebaud, il y a Torrent Terrace, enfin, il y a du très beau niveau, très très beau niveau.
Oui, parce que comme Torrent Terrace, c'est même le fantasque espagnol, Torrent Terrace, parce que c'est un ancien freestyler.
En fait, Torrent Terrace, c'était avant tout un pilote de supercross. Et c'est à Bercy, en faisant des sauts un peu spectaculaires, qu'il s'est révélé et il est devenu un pur freestyler. Il a complètement laissé la course. Mais voilà, c'est impressionnant, impressionnant.
Et un petit mot aussi, en début d'année, il y a Depeche Mode qui devait venir au Stade de France, au Stade de Montroy.
De Lille,
ouais. Et il a annulé parce que
il n'y avait pas de chauffage.
Mais je crois qu'avec le Supercross, la chaleur sera là avec les.
Je vais tout te dire, en fait, après l'échec malheureusement de Depeche Mode, moi j'ai appelé Olivier Baudry, le directeur du stade. Le lendemain, en disant, écoute-moi, mes spectateurs, ils sont chauds, ils n'ont pas besoin de chauffage.
Donc, en effet,
et on vient.
Et c'est un spectacle.
C'est comme ça, voilà.
Et c'est un spectacle 100% chaud, et donc tout le monde aura bien chaud.
Tu peux donner, par exemple, les horaires du dimanche et du samedi et du dimanche.
Alors, le samedi, les courses commencent à 19h, le spectacle commence à 19h, il y a une demi-heure de présentation, et après, on enchaîne jusqu'à 22h35. Et le dimanche, ça commence à 15h jusqu'à 18h35.
Voilà.
Donc c'est le 15 et 16 novembre prochain.
C'est la semaine prochaine.
Voilà, on invite tous nos auditeurs à s'y rendre.
Et puis ils seront en masse, surtout avec la Belgique qui est juste à côté, grand pays du motocross. Pascal, on te remercie et on se voit samedi, dimanche, sur place.
Avec plaisir.
Bye bye.
À bientôt.
Bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Kick me out the door. If I don't bring home that paycheck.
Et après le Paris-Bercy à Lille, nous revenons en Islande avec Stéphane et Valérie. Alors tout à l'heure, on a dit que bon, c'était une aventure, que c'était quand même pas si facile, hein, que les conditions climatiques pouvaient être compliquées, mais il y a aussi de beaux paysages et aussi, je crois, des rivières, des sources chaudes.
Oui. Oui, alors ça, c'est le côté très sympa. Donc, on roule toute la journée et en fin de journée, on se prévoit une petite source d'eau chaude. Donc, soit on va au Blue Lagoon, qui est assez touristique, soit on prend la moto et on se retrouve un petit coin de nature.
Donc, tu roules comme ça et tu cherches une source.
Oui,
tu t'arrêtes.
Il faut connaître, on nous les indique.
Oui,
en fait.
Ah oui, il faut connaître quand même. Et c'est vrai que c'est pas forcément super bien indiqué, mais ça se trouve. Et donc, à ce moment-là, c'est le pur plaisir. Hop, on se déshabille, source d'eau chaude, 38 degrés.
Après nickel. L'effort, le réconfort.
Et à l'extérieur, il fait combien ?
Bon, il doit faire 10, 15.
10 et l'eau coule de la rivière à 38 degrés.
Ça va, c'est pas trop. T'as pas l'impression de. Le choc thermique est pas trop.
Non, ça fait du bien quand on rentre.
Et le maillot de bain est obligatoire, non ?
Ben.
Oui. Alors, il y a une particularité en Islande, dans les piscines, il faut se doucher nu. C'est obligatoire.
Et tu mets ton maillot de bain après ?
Oui. Ouais, j'en ferai regardant sur l'hygiène, donc ça choque beaucoup de touristes.
Tu mets le maillot de bain en sortant, en fait.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà, oui, c'est ça.
Ça crée des liens, non ?
Exactement.
Ouais.
Allez, pays du Nord, quand même. Donc, il y a aussi des choses à voir. Vous avez vu des baleines, je crois, des phoques ?
Oui. Alors, les baleines, donc là, c'est un peu particulier parce qu'on ne les voit pas forcément du rivage. Il faut forcément prendre un bateau.
Et vous avez fait une petite croisière, alors ?
J'appellerais pas ça une croisière, puisqu'on est tombé à un moment où effectivement il faisait pas super super beau. Donc on avait un peu de houle, je dirais même beaucoup.
Des creux de 3-4 mètres.
Donc moi j'étais un petit peu malade.
Ah bon ?
Oui.
Comme beaucoup de gens sur le bateau. Hein,
j'avais une copine, je me suis trouvé une copine de mal de mer.
Vous avez filé des tuyaux.
Voilà, chacune de notre tour, on se retournait pour nourrir les baleines.
Voilà.
Non, enfin, c'est les baleines, donc il y a quand même une bonne heure de bateau pour pouvoir les voir. Et là, c'est vraiment, bon, c'est magique. C'est magique parce que, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours.
Non, chez nous, des baleines, voilà. Enfin, c'est pas les mêmes, quoi.
Oui.
Les phoques aussi, qu'on peut voir du bord de la route. Pas.
Là, oui, c'est un autre endroit d'Islande, dans le sud, où on est allé voir les icebergs. Et on a vu...
T'as vu des icebergs ?
Oui, on a vu des icebergs.
Il y en a encore ?
Il y en a encore. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais là, il y en a encore, oui.
Donc, c'est une réalité, la fonte
Oui, oui, oui.
Vous l'avez vu ?
Oui.
Il y a des panneaux avec les glaciers, et selon les années, jusque là où ils avançaient. Ouais.
Oui, oui, là, on voit effectivement, comme tu le disais, il y a des panneaux qui expliquent que chaque année, la glace recule et ça fond.
En 1990, elle était à un endroit, et là, elle est 150 ou 200 mètres plus loin.
Ah oui, quand même, c'est impressionnant.
Oui,
oui.
Et ils montrent un peu là, les conséquences sur la Terre
d'Islande. Ouais, comme tous les pays nordiques, en fait, c'est un peuple très écologiste. Donc, ils sont assez sensibilisés là-dessus.
J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas...
Donc, les icebergs, on a vu les phoques en pleine nature.
Et donc, je disais une petite anecdote. Vous avez eu un souci pendant un moment, un souci électrique
Souci mécanique, oui.
Parce que pour que ça soit une aventure, il faut bien qu'il y ait.
Oui, bien sûr.
Ouais. C'est ce qui se passe.
Ouais, sinon, c'était pas très grave, c'était juste un fusible.
Nous, on est un spécialiste pour avoir des soucis.
Donc, en fait, c'est le klaxon qui était défectueux, qui faisait claquer le fusible de 15 ampères. Ouais. Mais qui avait comme particularité de commander les phares, les clignots, les feux stop et toute l'instrumentation. Donc j'avais plus de contour, plus de jauge à essence, plus de jauge à température. Bon, ça, à la limite, c'est pas très très grave, on peut rouler, mais plus de clignots et plus de feux stop, ça m'embête.
Et t'étais où là à ce moment-là ?
Au milieu de nulle part, à peu près à 50 km de la première maison. J'étais pas un spécialiste en électricité, mécanique générale ça va, mais heureusement il y a notre ami Hervé qui m'avait donné quelques cours, qui doit nous écouter là et que je salue, qui avait donné quelques cours accélérés en électricité et j'ai pu vite diagnostiquer le truc. J'avais pris la notice technique de la moto sur clé USB pour aller avec l'ordinateur.
Wow.
J'ai regardé vite fait et c'était réparé en 2 minutes.
Oh, formidable, hein.
Ouais,
on peut aller au bout du monde avec
on devait prendre le bateau le surlendemain, je crois, et donc j'étais pas fier sur le coup en me disant, mon Dieu, je vais rester partait là. Et là, pareil, le bateau était le jeudi matin.
Après,
et, bah, oui, c'était ça.
Ouais. Effectivement, ouais. Si on devait donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent, je sais qu'il y a Bruno Chrétien qui nous écoute là, parce qu'il est très intéressé. Il voulait,
oui, il voudrait aller en Islande.
Il voulait, voilà, il voulait venir pour vous rencontrer, mais il pouvait pas. Mais sinon,
il
nous écoute.
Il peut nous contacter, il y a aucun souci.
Qu'est-ce qu'on, voilà, ouais, bah, ouais, notamment sur le blog, il y a un contact. Hein.
Oui, c'est ouais, ça. Oui.
Sinon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs s'ils avaient envie de vivre cette aventure?
Partir avec une moto préparée, qui puisse faire un peu de hors piste sans être du tout terrain extrême non plus.
Préparée, ça veut dire quoi?
Réviser.
Ouais, d'accord.
Partir avec des pneus neufs, des freins neufs. Parce que là, je suis revenu. Enfin, je suis parti avec pneus neufs, freins neufs, et je suis revenu avec tout à changer, en fait.
Et les pneus, c'était des pneus mixtes.
J'avais pris des pneus mixtes, ouais. Parce
que, et une compagne qui aime l'aventure,
surtout les
qui aime le froid.
Oui, prévoir des fringues étanches, surtout.
Oui.
Qui aime le froid, mais aussi des sources d'eau chaude.
Aussi. Oui. Surtout bien prévoir vêtements chauds.
Ouais. Non, sinon ça reste accessible en fait. On peut faire le tour par la route principale, ce qu'ils appellent la route circulaire ou route numéro 1. Ça, c'est faisable avec une routière sans aucun problème. On a vu des Goldwing ou des Harley.
Ouais.
Par contre, après, il y a l'inverse, ouais. Aller dans ce qu'ils appellent les hautes terres, ce qui est au milieu, mais là, il n'y a absolument rien. Et là, on a vu des gars avec des gros trails, la pneu à crampons, les jerrycans d'essence d'appoint, parce qu'évidemment, il n'y a pas de station service.
Ouais, l'essence, ouais, ça doit être compliqué.
Ouais, le mieux qu'on ait vu, en fait, à chaque sortie de ville, il y a un panneau qui indique les prochaines stations service.
D'accord.
Le mieux qu'on ait vu, c'est 265 km.
Ouais, ça va. Sympa. T'avais combien d'autonomie, toi?
300. 300 roulant doucement. Mais nous, on est restés dans aux endroits un peu près civilisés quand même, donc on n'a jamais eu de frayeur là-dessus.
Super, ça donne vraiment envie. Hein.
Ouais. C'est inoubliable en tout cas, comme disait.
Merci, ouais. Merci. On va merci retrouver vous. Patrick Pantini qui avait de petites infos à nous donner en tout terrain encore.
Oui, tout à l'heure j'ai oublié, en parlant des courses de sable, j'ai une petite pensée pour deux pilotes blessés qui roulent très bien le sable. Il s'agit d'Alexandre Morel et Théophane Kénéan. Hein, ce sont des gars qui roulent très 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 bien dans le sable. Qui malheureusement ne sont pas sur les lignes de départ. Et puis surtout une pensée pour Fabrice Caudron. Guy, je vois que tu regardes, c'est un vétéran qui s'est grièvement blessé en 2013. Il se retape tout doucement, ça va être très 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 long, hein, mais une pensée pour lui.
Okay.
Voilà. Et une dernière information, moi je reviendrai pour vous parler du salon de la moto de Pécancourt.
Ça sera combien là, le 36e?
Le 36, oui.
36.
Le 14 et 15 mars. Hein, je viendrai donc souvent une semaine avant faire gagner quelques entrées vos chers auditeurs.
Ah oui, on est voilà. Submergé d'appels à ce moment-là parce que c'est très 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 célèbre, connu. Combien? 40? 45 000, 50 000, combien l'année dernière d'entrée?
Entre 45 et 50 000 personnes. Enfin, on a eu un temps exceptionnel. C'était un peu la vengeance parce qu'un an avant, on avait eu de la neige. C'était la catastrophe. Donc voilà, en espérant qu'on ait du beau temps.
Il y a peut-être déjà, en termes de concert, prévu une tête d'affiche
Je ne vais pas me lancer tout de suite parce qu'il n'y a rien de bien confirmé, de validé. On est déjà à la recherche, on travaille. Hein, on a
ça
beaucoup
sera
de
rock'n'roll, quoi.
Ça sera rock'n'roll. Ouais.
Petite info, ça va pas tomber avec les courses championnat du monde de course sur glace, Pécancourt, cette année. Ça sera une semaine avant.
Une semaine. Ah bah alors, forcément.
Donc, tu auras l'occasion de venir
en parler
d'Isberg. Ouais. Parce que hier, on a vu Isberg. On a été à Isberg. Tu te rappelles?
Pas le glacier, le.
Non, mais la ville.
Ouais, tout à fait. En parlant calendrier, tu sais que le 29 novembre, il y a un couscous organisé par Kikinkou à Gondecourt.
Ah bon?
Il y aura notamment Luc Cotterel, celui qui a fait un périple là. Il a fait 85 000 km lui, mais en solo. En Afrique, dans la brousse quand même. Hein.
Ouais,
bon, il
n'y
a pas fait que l'Afrique, il a fait aussi le Moyen-Orient, les Balkans, etc.
Les Balkans, oui.
Et donc, il va exposer sa machine et puis son périple, hein, la carte, les photos, etc. Il fera un petit diaporama. Il y aura également les personnes qui sont venues. Qui ont fait la route 66 aussi, qui vont aussi exposer leur voyage. Enfin voilà quoi. Et puis Christophe Marquis, en vedette, en guest star, qui nous fera un petit concert en acoustique.
Et celui-là qui a fait la Russie, il ne vient pas.
La Russie, Éric Lobo, tu veux dire. Il n'a pas fait que la Russie, lui. Il a fait un tour du monde.
Il est dans le sud, lui.
Il a fait 40 000 kilomètres, je crois, en Harley, effectivement. Et notamment une bonne partie en Russie avec ses amis bikers. Eh bien, j'entends que c'est le générique de l'émission. Et on va bientôt dire au revoir. On va remercier Stéphane et Valérie de nous avoir donné envie d'aller en Islande. Patrick Pantini avec son garde du corps Joe qui sont venus nous donner les infos motocross. Guy, merci. Laurent.
Au mois prochain.
Voilà, Laurent, la
le
technique.
Grand Laurent.
Et comme d'habitude.
La progression musicale exceptionnelle.
Et comme je dis d'habitude, au revoir.
Et à dimanche prochain.
Bye bye.
Ciao.